Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus ce soir dans ce lieu. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le livre de Jonas. Et nous allons lire le chapitre 2. Nous lisons ensemble. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous aimez lire le livre de Jonas. Je ne sais pas si vous y êtes quelquefois arrêté longuement, ou si c'est juste un livre que vous utilisez pour enseigner les enfants. Toujours est-il que c'est un livre important qui est là. Jésus lui-même va y faire référence. Pendant de nombreuses années, durant de nombreux temps, des personnes n'ont pas voulu que ce livre figure dans la parole de Dieu. Tellement il est surprenant, tellement il nous renvoie quelque chose qui dépasse notre intelligence. Et Jésus, pour enseigner, va parler de ce livre. Et ce soir, brièvement, nous n'allons pas nous attarder tellement sur le contexte, mais vraiment sur 2 versets en particulier qui ont attiré mon attention dans ce chapitre 2. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, relisez le livre de Jonas. Jonas était pasteur, Jonas avait une mission, Dieu lui avait parlé, il devait aller à Ninive, il avait un message important à délivrer, et il est parti à l'opposé. On le sait, il n'a pas voulu écouter, il a fait comme lui il voulait, il a voulu suivre les chemins de son cœur et il est allé il a pris le bateau, il a fait vraiment comme il voulait et tout un tas de circonstances ont fait qu'il a été jeté à la mer, à sa demande, sur ses conseils d'ailleurs. Et c'est le chapitre 2, ce que nous venons de lire ce soir, où nous voyons que c'est Dieu qui a fait venir un grand poisson. Entre parenthèses, on ne sait pas si c'était une baleine, mais c'est un grand poisson. Et dans cette situation, dans ces circonstances, Jonas, qui quand même connaissait Dieu, qui avait une certaine relation avec Dieu, va prier. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 versets vraiment qui ont attiré mon attention. Et tout d'abord, c'est ce verset 8. Quand Jonas lui-même dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » C'est quand même assez surprenant qu'un homme qui connaît Dieu, un homme qui est pasteur, qui était pasteur, qui avait l'habitude quand même d'entendre parler de Dieu, parler Dieu, qui avait l'habitude de recevoir des ordres de Dieu directement, un moment de sa vie va quand même le mettre de côté. jusqu'à l'oublier. Alors effectivement, on pense pas qu'il est complètement oublié, qu'il est rayé de sa mémoire, mais on comprend au travers de ce qu'il écrit que finalement, il a voulu faire et suivre ses propres projets. Il a voulu, tout en connaissant Dieu, suivre la voie que lui, il pensait être la bonne voie. Et lorsque nous lisons ces versets, c'est un petit peu la photographie finalement de son cœur, c'est l'état de son âme, c'est le flou le plus total, c'est le reflet d'une vie finalement qui, même si on connaît Dieu, quelquefois ça ne suffit pas vraiment. On peut avoir l'habitude d'entendre parler de Dieu, on peut venir à l'église et Dieu peut nous donner même des paroles précises sur notre vie. Dieu peut nous parler et de la manière dont Dieu se révélait à Jonas pour lui parler, on comprend qu'il y avait là quand même quelque chose de surnaturel, mais c'est pas pour autant que ça puisse suffire dans notre vie. C'est pas pour cela que on va se décider à obéir au Seigneur. Ce n'est pas pour cela même que nous allons mettre notre vie en règle si c'était besoin pour quelqu'un ce soir de se conformer à la parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, et vous l'entendez aussi sûrement, si dès que vous entamez une discussion sur le fait que peut-être vous êtes chrétien, chrétienne, là où vous êtes, dans le métro, dans le bus, au travail, vous commencez à parler, et beaucoup de personnes vont pouvoir dire « Ah, mais si je pouvais voir Dieu, eh ben j'y croirais, je le suivrais, ah, si je pouvais entendre Dieu me parler. » Mais ça, c'est ce que l'être humain se dit. Mais la Bible nous dit l'inverse. La Bible nous révèle que le cœur de l'homme est toujours rempli d'orgueil, est toujours rempli de suffisance, et ce que Dieu dit, ce que Dieu nous montre, quelquefois n'est pas suffisant pour nous dans notre vie pour pouvoir le suivre. Et ce que Jonas a fait finalement ce jour-là, parce que en plus, on aurait pu le comprendre, parce que ce que Dieu demandait à Jonas, c'était pas quelque chose de facile. Il devait aller voir les ennemis d'Israël, et le message qu'il devait délivrer aux ennemis d'Israël, c'était un message qui devait les pousser à la repentance. Et Jonas le savait très bien. Pour Jonas, dans son cœur, c'était clair. S'il disait le message de Dieu, ils allaient se convertir, ils allaient se repentir. Et Jonas a fait ce que peut-être nous avons fait à un moment donné dans notre vie, ce que peut-être une personne ressent en ce moment même. Jonas a dit, mais je veux pas qu'ils se convertissent. Mais je ne veux pas y aller. Et est-ce que ça vous est jamais arrivé de ne pas vouloir que quelqu'un qui vous ait fait du mal se convertisse? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans telle situation où vous n'avez pas envie? Et Jonas, c'est ce qu'il a vécu. Et ce qui est dramatique, entre guillemets, parce que quand même, quelque part, ça peut nous rassurer, et ça nous montre quand même la fidélité, la miséricorde de Dieu, c'est que ce qui va basculer dans sa vie, ce qui va faire qu'il va prendre conscience, c'est ce que nous avons lu, c'est quand mon âme était abattue au-dedans de moi. À ce moment-là, on sent que Jonas va se souvenir, même si on a compris qu'il n'avait pas oublié Dieu, mais il va se souvenir que son Dieu est rempli de miséricorde, est rempli de bonté, est rempli de grâce. Et ce soir, il est quand même navrant de se dire que on peut se tourner vers le Seigneur lorsqu'on arrive à la limite de ce qu'on peut supporter dans notre existence. Vous croyez pas que le Seigneur aurait envie et a envie de nous bénir dans notre situation, dans notre vie, dans ce que nous sommes en train de traverser, sans que l'on soit obligé d'arriver comme au fond comme Jonas le décrit, sans qu'on soit obligé de descendre jusque dans les racines des montagnes, jusqu'au plus profond des problèmes, au plus profond de notre angoisse, jusqu'au plus profond de la misère. Parce que Dieu, lui, c'est le même. Et il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a parlé à Jonas, c'est le même Dieu qui a envoyé son poisson, c'est le même Dieu qui a entendu la prière de Jonas lorsqu'il était au fond de l'abîme, au fond des racines des montagnes, mais c'est le même Dieu qui entend les prières lorsque tout va bien pour nous dans notre vie. Et il est quand même regrettable de se dire, mais ah moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de Dieu. Pour l'instant, je sais ce que j'ai à faire. Pour l'instant, moi, ma vie, c'est Tarsis. Moi, ma vie, c'est l'opposé de ce que Dieu peut me demander. C'est l'opposé de la parole. De toute manière, c'est moi qui décide. Et quelque part, nous avons le choix. Quelque part, nous pouvons décider pour notre vie. Parce que Dieu ne forcera jamais personne. Dieu nous met tous devant nous pour que nous puissions choisir. Dieu nous met tout à disposition comme un repas qui est préparé, un bon repas qui est préparé, mais c'est à nous de choisir d'aller pouvoir nous restaurer, nous rassasier ou de ne pas y toucher, bien évidemment. Lorsque nous lisons, je me suis souvenu, c'est littéralement remettre en mémoire, se rappeler, se ramener à l'esprit. Et peut-être que ce soir, quelqu'un a besoin de ramener à son esprit cette réalité que Dieu nous aime, que Dieu est rempli de miséricorde, que Dieu veut nous bénir. Mais Dieu ne peut pas bénir si nous ne sommes pas dans l'obéissance, si nous ne désirons pas nous conformer à sa parole. C'est pas possible. Alors Dieu mettra peut-être les choses en place s'il faut qu'on soit jeté à la mer, on soit sorti de notre confort, on soit sorti de notre sommeil spirituel, si pour cela il faut que l'on passe quelque temps dans le ventre d'un poisson, on pourrait dire pour nous quelque temps dans l'obscurité, dans une épreuve, pour que nous puissions nous souvenir, nous rappeler que Dieu est là et qu'il veut intervenir, alors peut-être que nous devons l'accepter et comprendre que c'est bénéfique pour nous dans notre vie. On connaît ce psaume. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et Jonas, ce jour-là, a expérimenté réellement ce psaume. C'est le psaume 34, verset 7. Le deuxième verset, c'est la suite qui a attiré mon attention. Je ne sais pas si vous y avez fait déjà attention, si vous avez médité dessus. C'est le verset 9. C'est Jonas qui parle, Jonas qui est dans le ventre du poisson, qui se rappelle de la miséricorde de Dieu, qui se rappelle de l'amour du Seigneur, l'amour du Sauveur pour nous. Jonas va dire, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. C'est un verset qui fait réfléchir quand même. C'est un verset qui nous place quand même devant un choix personnel. Une autre version dira « Ceux qui s'attachent inutilement à la vanité abandonnent la miséricorde qui les aurait sauvés. » Je le relis « Ceux qui s'attachent inutilement à la vanité abandonnent la miséricorde qui les aurait sauvés. » On peut se poser cette question ce soir, parce que c'est le thème et c'est vraiment le verset, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est cela, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous laisse libres, nous sommes libres du chemin sur lequel nous voulons nous y engager, libres de crier à Dieu ou de ne pas crier à Dieu, libres d'écouter ce que Dieu veut pour notre vie ou de ne pas écouter. Et également, nous sommes libres de nous attacher à Dieu ou de ne pas nous attacher à Dieu. Mais la Bible ne parle pas de zone d'entre-deux, par contre. On le sait, Et c'est un rappel ce soir. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas dans la lumière, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Autrement dit, si nous ne sommes pas attachés à Dieu, c'est que nous sommes attachés au monde. Alors, ce soir, cette question, c'est à quoi est-ce que nous sommes attachés? À quoi est-ce que nous sommes reliés, on pourrait dire, pour utiliser un autre mot? À quoi est-ce que nous sommes fixés dans notre vie? Est-ce que c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ? Si c'est le cas, bénissez le Seigneur, merci Seigneur, parce que nous sommes dans la vérité, Jésus lui-même le dira. Mais si c'est pas Jésus, c'est qu'il y a autre chose qui a pris la première place. Et Jonas le savait, parce que peut-être pendant un certain temps de sa vie, autre chose avait pris la première place. L'orgueil, la méchanceté, la haine, le besoin de se faire que son peuple, et au travers de son peuple, c'est peut-être lui-même, le besoin de se faire justice, que sa propre justice s'accomplisse plutôt que la justice de Dieu, on ne sait pas, toujours est-il, c'est qu'on comprend que lorsque Jonas écrit ces mots, il a expérimenté, il sait que dans sa vie, il y a un danger, il sait que dans notre vie, c'est pour nous ce soir, il y a un danger, c'est si nous ne choisissons pas de nous attacher à Dieu, c'est que on désire, et c'est que l'on veut abandonner sa miséricorde, on pourrait traduire miséricorde par grâce, par bonté. Ça veut dire qu'on peut volontairement abandonner l'amour du Seigneur à notre égard. C'est cela que veut dire ce verset, si vous êtes d'accord avec moi. La Bible, rapidement, nous enseigne quelques mots, quelques paroles par rapport au fait de s'attacher. Et on peut ainsi en tirer enseignement pour notre propre vie. L'apôtre Paul pourra dire « Attachez-vous fortement au bien ». Donc on comprend, il ne faut pas être un grand théologien pour cela, on comprend que s'il faut, en tant que chrétien, pour nous qui sommes convertis, nous attacher au bien, ça veut dire qu'on peut être attaché au mal, par exemple. Lorsque l'apôtre Paul va écrire aux églises, il a conscience de certains pièges dans notre vie, et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui sont en marche, vous qui êtes ce soir dans une démarche d'apprendre à connaître le Seigneur, à faire des progrès, cela peut être un danger également, parce que l'apôtre Paul pourra dire « Mais ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Autrement dit, si vous vous attachez à faire des œuvres pour être sauvé, ça ne marchera pas. Si vous vous attachez à la religion, ça ne marchera pas. Si vous vous attachez uniquement à avoir une bonne morale, ça ne marchera pas. Si vous vous attachez à faire tous vos efforts, ça ne marchera pas. Jésus lui-même va enseigner sur cela, sur le fait que on peut s'attacher. Et que le fait de s'attacher, justement, vient sceller notre positionnement spirituel. Peut-être vous me voyez venir par ce texte. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je pense que ce soir, il y a une réflexion où c'est peut-être un rappel, un encouragement peut-être pour certains à comprendre que c'est notre devoir en tant que chrétien de rester attaché à Christ. Si nous ne sommes pas attachés à Christ, à comprendre que ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que nous l'avons lu au travers de ce que Jonas nous dit, il en va de notre salut. Et encore une fois, on ne peut pas trouver une zone neutre, une zone qui va nous permettre de nous dire « mais je ne m'attache pas à Dieu ». S'attacher, on pourrait le comprendre par « je ne veux pas suivre Dieu, je ne veux pas obéir, je ne veux pas peut-être me repentir, changer de direction ». Et si c'est le cas, la Bible est claire, c'est un chemin qui nous mènera vers la mort. Ne pas s'attacher à Jésus, c'est s'attacher au monde. Parce que dans ce texte, Jonas va faire le parallèle avec le fait d'avoir une idole. Alors bien sûr, pour nous, l'idole, ça ne veut peut-être plus signifier grand-chose aujourd'hui. On ne sait pas trop peut-être ce que ça peut être pour nous. Alors j'ai noté ce texte, on pourrait le lire ensemble, et c'est dans Ézéchiel. C'est un texte que l'on connaît, que l'on cite aussi régulièrement. Ézéchiel, 14, verset 3. Pour faire le lien avec le texte de Jonas, qu'est-ce qui a pris la première place? À quelle idole, peut-être, sommes-nous attachés ce soir? Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Jonas nous dit, le livre de Jonas nous dit que ça nous mène vers un chemin loin de la miséricorde, on l'a lu, mais qui est inutile. Parce qu'il y a cette réalité, c'est qu'on ne peut pas être plus fort que notre péché. On ne peut pas être plus fort que le péché. Et si on laisse ces idoles dans notre cœur, si on choisit autre chose que Dieu, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas réussir si nous voulons que quelque chose change dans notre vie, il faut comprendre qu'on doit changer de direction, changer d'orientation. Le Seigneur va avoir pitié de son peuple. Le Seigneur va leur exprimer cela d'une manière différente. Parce que l'horreur du péché, c'est de nous conduire à nous comporter, à faire des choses qu'on se dit peut-être qu'on n'aurait jamais imaginé faire. L'horreur du péché, c'est de nous emmener toujours plus loin dans les ténèbres, dans une vie sombre, dans une vie misérable. L'horreur d'avoir cette idole dans notre vie, c'est de nous faire croire qu'on peut s'en sortir sans Dieu, alors que sans s'en rendre compte, on prend le chemin qui nous mène directement vers la mort. Et Dieu, dans son amour, à un moment donné, va s'adresser à son peuple, parce que Dieu sait qu'on ne peut pas lutter contre le péché, parce que Dieu sait que ces idoles qui ont pris place, qui ont pris la première place, ne peut être réglées que par l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Dieu va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en moi qui ne leur a pas satisfait, on pourrait dire ça? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dira Dieu à son peuple. Ils se sont éloignés de moi et ils sont allés après des choses de néant. Et on peut dire pour nous, après leurs idoles. C'est le même Dieu qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui a dit, mais parce que je vous ai tant aimé, j'ai donné mon Fils. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez être pardonné. C'est le même Dieu qui a dit, mais si vous allez auprès des choses de néant, vous allez être comme ces choses de néant. Votre vie sera néant. Et les projets de Dieu pour chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on s'attache à des idoles pour nous faire fuir son amour, pour nous emmener loin de son amour, mais le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de s'attacher à lui, c'est de comprendre que Jésus-Christ a tout payé, a tout donné pour que nous puissions comprendre, saisir son amour, l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Bien sûr qu'on est trompé par le péché. Bien sûr qu'on est trompé par nos idoles. Bien sûr que Jonas s'est trompé lorsqu'il a pris un mauvais chemin. Bien sûr que l'on peut se tromper soi-même, que notre cœur peut se tromper. On espérait peut-être tellement de choses. Le péché nous a fait croire tellement de choses. Nous a fait croire que le bonheur, c'était de faire ce que nous on voulait, de nous faire croire que le bonheur, c'était de réussir socialement, sentimentalement, c'était d'acquérir des biens matériels, mais c'est faux. Parce que ces choses-là, ce sont des choses de néant. Et si on s'attache aux choses de néant, on deviendra nous-mêmes comme du néant, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais aller vers la vie. Le néant ne produira jamais autre chose que le néant. Le péché ne pourra jamais produire autre chose que la mort. Mais la Bible nous dit que Dieu, de la même manière qu'il a entendu la prière de Jonas et qu'il a voulu sortir, la Bible nous dit que Dieu a voulu donner son Fils pour que nous puissions sortir de nos ténèbres, connaître ce qu'est le pardon, la vie éternelle. La Bible nous dit que c'est à nous de choisir, c'est à nous de nous repentir. On ne peut pas mettre la faute sur les autres. Jonas, lorsqu'il a été au plus profond de son mal-être, de sa misère, n'a pas dit au Seigneur, mais voilà, c'est de leur faute, c'est parce que moi, ceci, moi, cela. Non, il a compris que les paroles de la vie éternelle n'étaient pas en autre chose qu'en Dieu. Et pour nous, nous devons saisir que la vie éternelle se trouve uniquement dans le sacrifice de Jésus-Christ, mort pour nous sur le bois de la croix. Je terminerai juste par cette pensée, sans la commenter. Il y a quand même une réalité. Ce que Louis II a traduit par « ce qui s'attache à de vaines idoles éloigne d'eux la miséricorde », l'autre version l'a traduite par « abandonne la miséricorde ». Et j'ai trouvé cette traduction plus pertinente, parce que ça sera toujours nous, toujours de notre responsabilité, si on ne veut pas s'attacher à l'amour de Dieu. Il n'est pas question de s'éloigner par le fruit du hasard, par le fruit de quelque chose, mais c'est de notre responsabilité. Si ce soir, nous ne voulons pas répondre à l'amour de Dieu, c'est de notre responsabilité si nous ne voulons pas accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, pour nous apporter le pardon et la vie éternelle. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tes plans sont parfaits, tes projets sont parfaits. Ton amour nous amène dans une réalité où nous devons nous positionner. Et ce soir, tu nous rappelles simplement que nous attacher aux idoles, c'est te fuir, c'est aller loin de toi, c'est abandonner ton amour, c'est abandonner ta grâce, c'est nous éloigner de ta grâce. Ce soir, quelque part, tu nous enseignes, et peut-être que tu l'as rappelé à quelques-uns, que s'attacher aux idoles, c'est se faire du mal à nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas de toi dans notre vie. Père, ce soir, je te prie, si quelqu'un était là, se posait des questions, remettait en doute, en question, sa démarche, sa foi, son attachement à ta personne, et que des idoles ont commencé à prendre place, des choses qui sont venues dans leur cœur pour prendre la première place, qu'ils puissent comprendre que ton amour n'a pas changé, que tu es celui qui sait envoyer le poisson au bon moment, et tu es celui qui s'est ordonné aux poissons de nous relâcher au bon moment également. Tu es celui qui nous voit lorsque nous sommes abattus, et tu es celui qui veut se rappeler à notre mémoire à chaque instant, lorsque nous sommes en difficulté, en combat. Père, merci pour tous ces bienfaits. Merci parce que ce soir encore, tu nous permets d'apprendre à te connaître, à prendre ton amour, et à saisir ton pardon pour rentrer dans cette vie abondante. Tu n'as jamais voulu nous donner une vie de néant, mais tu as toujours voulu nous donner une vie abondante. Seigneur, à toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.